Cette semaine, dans leur conversation, Daniel Abert et Blaise van der Linden nous parlent des initiatives américaines pour résoudre les conflits, que ce soit au Proche-Orient, bien sûr, mais également en Ukraine. On écoute Daniel Abert, il est au micro, je vous le disais, de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Abert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin pour de nouvelles conversations, pour commencer cette semaine. Alors Daniel, cela fait quasiment un mois maintenant que Donald Trump est entré à prêter serment et devenu président des États-Unis. On voit une certaine effervescence autour des initiatives américaines. Alors pour commencer, comment Israël gère la situation présente?
Oui, elle observe, Israël observe tout ça. Elle parle beaucoup avec les équipes de Trump. Hein, donc, Israël maîtrise un peu tout ce qui se passe Israël doit faire un certain nombre de constatations. D'abord que Trump suit exactement son calendrier, c'est-à-dire America first. Je gère d'abord les problèmes américains, les problèmes de, en particulier les problèmes d'immigration, qui ne sont pas seulement des problèmes d'ordre public, etc. C'est aussi des problèmes d'identité, de qu'est-ce que c'est qu'être américain quand vous avez un pourcentage très élevé de latino-américains catholiques et qui parlent espagnol et qui bordent toute la frontière sud. Et donc les problèmes américains de ce point de vue-là ressemblent beaucoup aux problèmes européens sur l'identité américaine. On en reparlera peut-être un autre jour. La deuxième, évidemment, c'est la guerre commerciale. La guerre commerciale, c'est l'idée que les Américains ont été au fond les perdants de la globalisation. C'est pas vrai, hein, mais c'est comme ça qu'ils présentent. Et donc, c'en est fini. Et maintenant, ils attaquent tout le monde, les ennemis comme les amis. Israël est assez préservé de ça parce qu'elle n'a pas d'enjeu dans la guerre commerciale. Elle se contente de l'observer. La troisième, c'est que la priorité, c'est pas le Moyen-Orient pour Trump, c'est la Russie et l'Ukraine. Et pourquoi? Parce que au fond, Trump a organisé avant même qu'il arrive deux cessez-le-feu au nord et au sud d'Israël avec le Hezbollah, avec le Hamas, ce qui fait qu'on a un peu de temps devant nous. On voit bien que, par exemple, la trêve avec le Hezbollah, elle devait se terminer le 18 février. Enfin, elle devait se terminer en janvier. Elle a été repoussée au 18 février. Maintenant, c'est repoussé à fin mars. C'est-à-dire qu'on se donne le temps de repousser le Hezbollah au-delà du Litani parce qu'on sait que c'est compliqué, que c'est long. Et le principal, c'est qu'il n'y ait pas de missiles qui partent du nord sur les habitants. D'ailleurs, les habitants d'Israël commencent à non seulement à travailler dans le nord, mais à regagner leur maison. Donc, il y a une tranquillité qui s'installe au nord. Quant au sud, ben, on voit bien que dans la douleur et la difficulté, la première phase de l'accord se met en place. Les otages sont libérés, hélas, au compte-gouttes, et c'est épouvantable. Et il y a une négociation pour la deuxième phase qui, elle, est beaucoup plus compliquée, puisque c'est la totale libération des otages et surtout le retrait total de Tsahal, de Gaza. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est en cours. Et donc, pour l'instant, la frontière sud est tranquille et on peut dire que les Israéliens reprennent une vie normale. Il y a plus de sirènes à Tel Aviv. Donc, au fond, l'idée de Trump, c'est ça peut attendre. Ça peut attendre et je me concentre donc sur Poutine. Et pour Israël, en fait, la véritable priorité aujourd'hui, c'est la Judée-Samarie, c'est la Cisjordanie, où là, les milices du Hamas et du djihad préparent des mauvais coups. Et Israël est en train de faire la police à la place de l'autorité palestinienne qui peut pas le faire. Et donc, tout ça prend beaucoup de temps. Dans une société israélienne qui est quand même très choquée, très divisée, qui est polarisée sur la libération des otages. Donc, il y a une atmosphère, si vous voulez, psychologique en Israël qui est pas facile à gérer. Mais il n'y a pas d'urgence pour l'instant, dans l'esprit de Trump, en tout cas, de régler la question du Moyen-Orient. Sa priorité, c'est Poutine.
Oui, justement, vous avez mentionné l'Ukraine et Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est légèrement vexé que Donald Trump ait appelé Vladimir Poutine avant de l'appeler lui-même. Y a-t-il des leçons à tirer sur ce prochain cessez-le-feu, sur cette prochaine paix, pour le Proche-Orient?
Non, vous avez tout à fait raison de dire que Israël regarde attentivement ce qui se passe dans la négociation parce que ça va donner des leçons pour Israël sur ce qui va se passer. Zelensky est plus que vexé, il est tourmenté, il sait que c'est que Il s'attend à des choses terribles et d'une certaine manière, Israël doit aussi s'attendre à des choses terribles parce que ce qu'on apprend dans la négociation de Trump, c'est que un compromis, et il veut des compromis. D'abord passe d'ailleurs par une première priorité, c'est les cessez-le-feu. Il veut que les morts s'arrêtent. C'est une obsession. Pourquoi pas, d'ailleurs, il a raison. Et donc c'est sur la frontière, sur le front ukraino-russe qu'il y a encore des morts. Il y en a beaucoup moins au Moyen-Orient. Maintenant c'est sur cette frontière. Et lui, il veut que ça cesse le plus vite possible, que la souffrance des guerres s'arrête. Donc ça, c'est aussi une première leçon pour Israël. La deuxième, c'est que toute négociation, tout compromis, c'est perdant-perdant. Donc la leçon, c'est Zelensky va perdre beaucoup de choses, il va perdre du territoire, quoi d'autre? Et donc pour Israël, c'est qu'est-ce qu'il va perdre? Qu'est-ce qu'Israël va perdre dans une négociation? C'est ça l'interrogation. Et au fond, on s'aperçoit que le vrai deal que Trump est en train de mettre en place avec Poutine et qu'il mettra en place avec l'Iran, donc pour le Moyen-Orient, c'est pas tellement ce qui se passe en ce moment. On va acter un certain nombre de réalités de terrain et donc la négociation, c'est sur l'avenir. C'est comment empêcher que ça se poursuive, en particulier pour l'Ukraine. C'est bon, ok, on coupe un bras, on dit la Crimée, le Donbass, c'est perdu, bon, au moins pour l'instant. Et comment empêcher Poutine de continuer son agressivité? Et là, la réponse, elle est claire chez Trump. On va dire à Poutine, en gros, le deal, c'est on vous réintègre dans la communauté internationale. Vous n'êtes plus notre paria, comme on a essayé de faire vous voir. Ça marche pas. Ça mène à l'escalade et j'en veux pas. Donc je vous réintègre dans ce monde. On se parle, je vous respecte, etc. Qu'est-ce que vous me donnez en échange? Et en échange, c'est on attend de vous que vous conduisiez bien. Et donc l'idée avec l'Iran, ce sera ça. C'est au lieu de vous considérer comme l'ennemi de l'humanité, un paria, on va essayer de vous réintégrer dans le jeu du Moyen-Orient. On va acter un certain nombre de choses, votre régime par exemple, peut-être même le fait que vous êtes un pays du seuil nucléaire. Et bon, ben on va vous demander d'arrêter, mais de ne pas détruire votre arsenal. Et on voudrait que maintenant vous jouiez le jeu de la stabilisation du Moyen-Orient. Et alors évidemment, de la même façon que pour Zelensky, c'est le coup est terrible. Quel sera le coup pour Israël? Ça sera de vivre avec un Iran, pays du seuil, avec qui on va peut-être ouvrir, lever les sanctions, une partie des sanctions, donc on va le renforcer. Pour Israël, ça va être très dur à vivre. Mais donc la vraie question qui se pose maintenant, aussi bien pour l'Ukraine que pour Israël, c'est quelles sont les garanties sur l'avenir?
Ouais. Daniel, en réintégrant Vladimir Poutine, Donald Trump peut-il, via Vladimir Poutine, faire pression sur l'Iran?
Alors, tout est lié, hein, on l'avait dit la dernière fois. Je pense pas qu'il y ait de pression directe sur l'Iran, etc. Mais ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est quelles garanties peut-on obtenir, aussi bien de Poutine que de l'Iran, qui sont effectivement liés par des accords militaires, hein, vous avez tout à fait raison. Quelle garantie peut-on avoir que ils vont se calmer? Au fond, c'est ça l'idée, hein, si, qu'on peut stabiliser la paix en Europe et qu'on peut stabiliser le Moyen-Orient. C'est ça l'objectif de Trump, hein, stabiliser pour pouvoir se concentrer sur la Chine, parce que c'est ça. Et donc, s'il y avait un lien entre Iran et Russie, c'est la Chine. Est-ce que la Chine va se laisser faire? Est-ce qu'on peut imaginer que Trump dise à Poutine, maintenant qu'on est redevenu ami, on va lutter contre le défi chinois qui vous concerne, vous, tout autant que moi? J'ai des doutes là-dessus et on en reparlera parce que ça, c'est un vrai sujet. De la même façon pour l'Iran, comment faire en sorte que la Chine soit un facteur de stabilité plutôt que de pousser Israël, que de pousser l'Iran, pardon, à continuer son agressivité. Or, la Chine n'a pas intérêt à la déstabilisation du Moyen-Orient. Il a besoin de pétrole, il a besoin de vendre, donc a besoin de paix. Donc, votre question, elle n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est toute l'année 2025 qui va être consacrée plus qu'à des cessez-le-feu immédiats avec la Russie et avec l'Iran, qu'à définir les conditions de garantie d'un avenir plus paisible. Et là, alors là, c'est monstrueusement compliqué.
Et ça nous donne des sujets pour nos conversations de cette année
Beaucoup, oui.
2025. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous ce matin, et on se retrouve lundi prochain.
À bientôt.